enseignemoi.com.
Enseignemoi.com, le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Enseignemoi.com.
Parce que son peuple périt, faute de connaissances.
Enseignemoi.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Voilà, nous recevons maintenant la parole de Dieu et nous ouvrons notre Bible à 1 Corinthiens, au chapitre 1, verset 17. Ce n'est pas pour baptiser que Christ m'a envoyé, c'est pour annoncer l'Évangile, et cela sans la sagesse du langage, afin que la croix de Christ ne soit pas rendue vaine, car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Et donc nous allons parler ce matin de la prédication de la croix. Il y a des personnes qui adorent littéralement la croix. Nous n'adorons pas la croix, nous adorons Jésus qui était dessus. Mais la croix est un objet de malédiction. Mais la croix, quand nous disons la bénédiction qui découle de la croix, nous pensons à l'œuvre qui a été accomplie à la croix. Et la prédication de la croix, ce n'est pas donc que nous prêchons un objet qui serait un instrument de torture. Je comprends que des personnes qui aient un peu de bon sens puissent des fois être choquées dans leur intelligence par les choses de la, entre guillemets, religion chrétienne. Parce qu'on parle de sang, de sacrifice, d'expiation, le sauveur qui est mort, torturé par des païens, donc ça fait toute une accumulation de choses. Eh bien, nous avons besoin donc de voir quelle puissance se trouve dans la prédication de la croix de Christ. Et nous allons voir aujourd'hui cette bénédiction de la croix. Il y a sept bénédictions particulières que nous allons voir qui découlent de la croix. Pourquoi sept? Bien parce que j'aime bien le chiffre 7 et ça pourrait être 6, 5, 10 ou 12, mais aujourd'hui ça sera 7. Ça ne veut pas dire que la liste est exhaustive, mais nous allons partager ensemble sept aspects où nous sommes bénis à cause de l'œuvre de la croix et que c'est une puissance pour nous. Et tous ces sept, là, on aurait aussi pu trouver autre chose, mais ce que je vais vous partager, eh bien, ce seront sept éléments de la bénédiction de la croix qui vont commencer par la lettre P. Il y aura le pardon, la pureté, la paix, les promesses, la puissance, le pouvoir et le parfum. Allons voir sept aspects de ce que la croix a produit pour chacun d'entre nous et pour le monde entier. Et tout d'abord, nous allons commencer par la chose qui, en général, eh bien, c'est ce qui nous motive de venir à Jésus. Nous venons à lui comme un sauveur. Nous avons besoin d'être sauvés. Si vous demandez aux gens de la rue, est-ce que tu es sauvé? Peut-être, ça ne lui dira pas grand-chose. Mais à un moment donné, chaque homme, chaque femme, chaque enfant doit réaliser qu'il est dans une position de perdition. Il est séparé de Dieu, éloigné, et il y a quelque chose qui se passe en son cœur qui fait qu'il est malheureux, il est chargé, et il comprend ce que c'est le péché. Péché n'est pas un... c'est peut-être dans le langage des gens de la rue, c'est peut-être un mot qu'ils n'aiment pas trop, peut-être c'est un mot qui leur paraît un peu vieillot, peut-être c'est un mot qu'ils veulent rejeter, mais nous avons tous, à un moment donné, une conviction de péché dans notre vie. La Bible nous dit que c'est l'œuvre du Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu veut convaincre le monde, chaque personne, en ce qui concerne le péché. Nous, des fois, on essaye de convaincre les gens qui sont pécheurs, mais on n'y arrive pas, parce qu'on est maladroit, et puis en voulant leur montrer combien il y a des choses qui ne vont pas, en général, on provoque un sentiment où la personne se sent rejetée, ou condamnée, ou d'autres choses. Mais quand c'est le Saint-Esprit qui le fait, la personne est convaincue. Elle est convaincue, et quand elle est convaincue de péché, alors qu'est-ce qu'elle désire? Elle désire le pardon. Jusqu'à présent, peut-être elle ne s'en occupait pas beaucoup, mais quand le Saint-Esprit a agi de cette façon dans sa vie, elle désire le pardon. Il y a même des gens qui ont rejeté, je pourrais vous citer des noms de gens très intelligents, de gens dans certaines positions, et qui ont rejeté Dieu et qui, sur leur lit de mort, des athées. On parle de gens comme, des fois, Lénine ou Staline ou d'autres, ou Darwin. pendant toute leur vie, ont combattu les idées de Dieu, de la Bible, de la religion, n'ont pas voulu de tout ça, et sur leur lit de mort, ils étaient là, supplier Dieu de leur pardonner leurs péchés. Mais souvent, ils avaient fermé la porte de la grâce, et ils n'ont pas su recevoir le pardon. Donc, une chose est que Dieu pardonne, une autre est d'être capable de recevoir le pardon de Dieu. Et donc, le pardon nous est acquis. C'est la première bénédiction de la croix, et nous allons lire un passage dans 1 Jean 1, donc premier épître de Jean, chapitre 1, verset 5. La nouvelle que nous avons apprise de lui. Ils ont appris une nouvelle. Et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière et qu'il n'y a point en lui de ténèbres. C'était tout nouveau. Vous vous rendez compte? C'était nouveau. Parce que peut-être nous sommes habitués maintenant que Dieu est lumière. Nous avons l'habitude d'en parler. Peut-être même que dans certaines religions où on voit bien qu'il y avait assimilation entre Dieu et le soleil, hein, c'est pas qu'ils adorent, la plupart du temps, c'est pas qu'ils adoraient littéralement l'astre du jour, mais pour eux, il y avait une identification entre le soleil et Dieu. Et donc, quelle est la nouvelle ici? C'est que dans la religion d'Israël, eh bien, Dieu était caché. N'est-ce pas vrai? La plupart du temps était caché. Quand Salomon a inauguré le temple, la nuée a rempli le temple, et puis, comme il ne voyait plus rien à cause de la nuée, il a dit « Dieu veut habiter dans l'obscurité ». Et Dieu était dans le saint des saints, dans le lieu très saint, où c'était tout fermé, il n'y avait aucune lumière à cet endroit-là. Il y avait juste un chandelier, encore était-il dans le lieu saint, mais pas dans le très saint. Donc c'était un endroit qui était en fait opaque, fermé. Et donc voilà une nouvelle, c'est que Dieu est lumière. C'est nouveau. En lui, il n'y a pas de ténèbres. Il y a eu un moment, une révélation, ben, parce que maintenant Dieu pouvait, à cause de l'évangile, à cause de Jésus, le ciel est ouvert. Il y a un moyen de communication, on peut accéder et on n'a plus besoin de se tenir éloigné de Dieu. Donc sa lumière peut être vue. On ne peut pas encore le regarder face à face, de la même façon que vous ne pouvez pas fixer le soleil, hein. Directement, ça va vous faire du mal. Et de la même façon que nous ne sommes pas encore prêts, je dirais, dans notre corps, à nous présenter devant Dieu, on serait immédiatement consumé par sa gloire. Mais néanmoins, la lumière de Dieu nous éclaire déjà. Et donc, en quoi ça devient très précis, très concret concernant notre vie? Il est dit, si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchions dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Mais si nous marchons dans la lumière comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est point en nous. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous le faisons menteur et sa parole n'est point en nous. Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés, et non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Il a déjà porté une fois pour toutes les péchés du monde entier. Et des fois, on se demande, quand nous regardons ce qui se passe dans le monde, toutes les horreurs, tous les drames, les catastrophes. On dit, mais comment Dieu qui est saint peut-il même regarder notre planète encore en voyant toutes ces horreurs? Parce que lui est conscient de ce qui se passe à chaque endroit du globe, à chaque instant. Tous les meurtres, toutes les abominations qui se commettent, Dieu les voit. On peut dire, comment est-ce possible qu'un Dieu si saint ne consume pas immédiatement tout ce péché? Eh bien, la seule façon dont il peut encore supporter le péché de ce monde, c'est parce que, justement, Jésus a fait quelque chose. Il a été une victime expiatoire pour nos péchés et même pour ceux du monde. C'est vrai que s'il n'y avait pas Jésus, la colère de Dieu n'aurait absolument rien pour être retenue. Et pas que Dieu soit un Dieu méchant qui cherche à détruire, mais c'est simplement qu'il y a une guerre ouverte entre la lumière et les ténèbres, entre le mal et le bien, et entre le péché et la sainteté de Dieu. Et donc Jean 3, 16, ce verset que nous connaissons bien, Dieu a tant aimé le monde. Il a aimé le monde et il a donc fait ce qu'il fallait pour le péché du monde. Et nous annonçons cette nouvelle que nous avons apprise aussi, c'est que Dieu est réconcilié avec le monde. Ou plutôt, le monde est réconcilié avec Dieu. Et pour nous, donc, la première bénédiction de la croix, c'est de pouvoir marcher devant Dieu et dans ce monde en ayant le pardon. En ayant le pardon. Ce n'est pas une petite chose, puisqu'il nous arrive, comme le dit ici la parole, si quelqu'un a péché, ou on est exhorté à ne pas pécher, mais il peut arriver qu'on commette un péché, à ce moment-là, nous avons le pardon auprès de Dieu. Nous en avons tous besoin. Parce que celui qui, au bout d'un moment, ne s'en occupe plus tellement de cette histoire de pardon, vous avez besoin régulièrement, non pas de développer la conscience du péché, mais de développer la conscience du pardon des péchés. Et je vais vous montrer quelque chose dans la parole de Dieu dans un instant concernant cela. Mais on va d'abord voir encore le psaume 103. Parce que nous sommes ici dans le Nouveau Testament, dans la Nouvelle Alliance, mais déjà dans le psaume 103, il y avait quelque chose de formidable qui était proposé au peuple. « Mon âme bénit l'Éternel. Que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. » C'est David qui se parle à lui-même, hein. D'accord ? Il n'est pas en train de décrire « voilà ce que je fais ». Il dit « mon âme bénit l'Éternel ». Ce n'est pas la troisième personne. Ce n'est pas « voilà ce que fait mon âme ». Il dit « mon âme, voilà ce que tu dois faire ». Comme cette espèce de dualité de deux personnes, deux personnalités dans une même. Eh bien, nous avons notre esprit, notre âme, notre cœur et notre intelligence qui se parlent les uns les autres. Mais il est dit ici « mon âme bénit l'Éternel, n'oublie aucun ». De ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités. Rendez compte, déjà dans le psaume 103, une révélation du Dieu qui pardonne toutes les iniquités. Toutes, déjà. Guéris toutes tes maladies. La double bénédiction aussi, non seulement au niveau de l'âme, mais aussi au niveau du corps. C'est lui qui délivre ta vie de la fosse, qui te couronne de bonté et de miséricorde. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. L'Éternel fait justice, il fait droit à tous les opprimés. Il a manifesté ses voies à Moïse, ses œuvres aux enfants d'Israël. L'Éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté. Il ne conteste pas sans cesse, il ne garde pas sa colère à toujours. Il ne nous traite pas selon nos péchés. N'êtes-vous pas heureux qu'il ne nous traite pas selon nos péchés ? L'Éternel est un Dieu juste, il va oublier rien du tout. Mais sa justice, elle est parfaitement accomplie en Jésus. Il ne nous traite pas selon nos péchés, il ne nous punit pas selon nos iniquités. Mais autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande pour ceux qui le craignent. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. Comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent. Car il sait de quoi nous sommes formés, il se souvient que nous sommes poussière. Et un autre passage dans les Hébreux nous dit que Jésus est passé par les mêmes choses que nous. C'est pourquoi il peut avoir de la compassion pour nous, parce qu'il nous comprend. Hébreux 10, 16 à 18, pour parler encore du pardon. Voici l'alliance que je ferai avec eux. Après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur cœur, je les écrirai dans leur esprit. Et il ajoute, je ne me souviendrai plus de leurs péchés, ni de leurs iniquités. Or, là où il y a pardon des péchés, il n'y a plus d'offrande pour le péché. Il n'y a plus besoin maintenant d'offrir d'offrande pour le péché. Ça a été fait une fois pour toutes. Une fois pour toutes. Ça c'est au verset 10. En vertu de la volonté de Dieu, de la volonté de Jésus de s'offrir, eh bien, en vertu de cette volonté, nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ, une fois pour toutes. Alléluia. Donc, entretenons constamment cette notion, non pas du péché, mais du pardon et de la justice de Dieu que nous sommes, à cause de Jésus. Première bénédiction. De l'œuvre de la croix, nous remercions le Seigneur pour son pardon. Et la deuxième Eh bien, c'est la pureté. Comme je l'ai dit, nous pouvons être convaincus par le Saint-Esprit de notre culpabilité. Nous pouvons aussi être convaincus par le Saint-Esprit de notre souillure, de notre saleté. Et quand l'innocence d'un enfant est partie, il n'y a plus rien qui puisse faire qu'il la retrouve un jour. Il y a l'innocence du début. L'enfant naît, il grandit, et au début, il est innocent. Il n'a rien fait de mal. Mais à cause de sa nature qu'il a héritée de nous, la nature du péché va se réveiller en lui. C'est là que nous avons besoin, dès tout petit, de prier et de semer la parole dans leur cœur pour que la parole de Dieu puisse trouver sa place et s'enraciner avant que le cœur ne s'endurcisse par le péché. Le péché fait toujours une œuvre de dureté, d'endurcissement. Et donc, il y a besoin d'y travailler. L'enfant, donc, vient dans l'innocence, mais assez rapidement, eh bien, à cause des œuvres, à cause de la nature du péché en nous, eh bien, le cœur s'endurcit et il y a cette notion de souillure. Dans Ésaïe, chapitre 53, il est dit « Toute notre propre justice était comme un vêtement souillé. » Tout ce que nous voulons apporter à Dieu de nous-mêmes, c'est comme souillé. Mais Dieu nous donne la pureté. Nous imaginons Jésus et nous le voyons pur, sans péché, sans tache, ni ride. Pureté, c'est aussi la notion de propreté. C'est propre. Il était par excellence celui qui n'a jamais connu de péché. Alors vous pouvez imaginer ce que ça a dû être pour lui au moment où tout est venu sur lui. Tout. Rejet, violence physique, maltraité, craché dessus. Et toutes les humiliations qu'il a dû subir, parce que les soldats ne se privaient pas. Et des fois, on entend des faits divers, de choses qui se passent des fois, des abus d'autorité, des choses comme ça, de gens, de militaires, de policiers, ou des choses comme ça. Donc, on peut imaginer, c'est vrai que ce n'est pas des choses qui doivent habiter notre esprit, mais on peut imaginer tout de même ce que Jésus a dû subir. Et de lui qui était pur, eh bien, il y a toute la saleté du monde qui est venue sur lui. Toute l'horreur, tout ce qui est imaginable. Et comme si ce n'était pas assez physiquement, il a encore pris moralement et il a encore reçu tout ce qui était au niveau de son âme. Mais la Bible nous dit « Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. » Alors, est-ce possible d'en trouver qui est le cœur pur? Est-ce qu'il y en a quelque part? C'est dans les Matthieu 5, dans les Béatitudes, comme on les appelle, verset 8. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Et nous voulons tous un jour voir Dieu. Nous voyons déjà d'une certaine façon la gloire de Dieu, nous voyons la bonté de Dieu dans notre vie, nous voyons Dieu se manifester en nous faisant du bien, mais un jour nous le verrons, nous dit la Bible, face à face. Et ceux qui ont le cœur pur, eh bien, ils verront Dieu. Comment trouver cette pureté du cœur? Là encore, quand il y a l'œuvre du Saint-Esprit, c'est en rapport avec le péché. Nous sommes sous la condamnation, nous sommes sous la culpabilité. Et que se passe-t-il? Eh bien, comme dans le psaume 51, le roi David, quand il avait péché, eh bien, le pécheur repentant vient à Dieu et demande la miséricorde de Dieu. Verset 3. Ô Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté, selon ta miséricorde, ta grande miséricorde, efface mes transgressions. Lave-moi complètement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché, la pureté. Et on dit qu'il y a des gens, des fois, qui ont une maladie psychique, il y a des gens qui se lavent tout le temps les mains. Bien, souvent, c'est en rapport, on a plaisanté aussi des fois sur Ponce Pilate, le fait qu'ils se lavent les mains. Et puis, on dit, voilà, c'est en rapport avec, des fois, quand on se sent coupable de quelque chose, on voudrait s'en débarrasser. Mais ce n'est pas le fait de se laver les mains qui va régler le problème à l'intérieur. Et donc, il y a des gens qui sont des vrais obsédés de la propreté. C'est bien quand c'est propre, mais quand ça devient une maladie de l'âme, au point que la moindre poussière et tout, et on regarde un tapis, on imagine toutes les petites bêtes qui peuvent être dedans, et on ne supporte pas la moindre petite araignée dans sa cave, et là ça devient une maladie de l'âme. Et bien de la même façon, quand il y a quelque chose qui ne va pas en nous, ce n'est pas la purification du corps, la purification du corps, tout ce qu'on peut faire en se lavant, eh bien, ça n'apporte pas le problème, la solution du problème intérieur. Et c'est pour ça que même pour le baptême, certains ont encore une fausse notion et ils croient que le baptême, c'est une purification. Or, l'épître de Pierre nous dit clairement que le baptême, ce n'est pas pour la purification. Le baptême, c'est notre identification à la mort et la résurrection de Jésus. C'est une notion complètement différente. Mais si, néanmoins, on voit que c'était imprimé dans la race humaine et dans ces gens qu'ils sentaient que quelque chose n'allait pas, ils cherchaient à se purifier, ils cherchaient à trouver la solution auprès de Dieu. Purifie-moi de mon péché. Je reconnais mes transgressions. Mon péché est constamment devant moi. Si seulement plus de personnes pouvaient être, je dirais, tourmentées à ce point par leur péché, au lieu de vivre avec et de trouver ça normal, mais qu'ils cherchent auprès de Dieu du secours parce qu'ils voient leur péché. J'ai péché contre toi seul. J'ai fait ce qui est mal à tes yeux en sorte que tu seras juste dans ta sentence, sans reproche dans ton jugement. Si quelqu'un qui ne cherche pas à repousser la faute et à la mettre sur quelqu'un d'autre, mais qui dit non, c'est moi qui ai fait ce qu'il ne fallait pas. Je suis né dans l'iniquité, ma mère m'a conçu dans le péché, mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi. Il réalisait cette difficulté qu'on ne peut pas faire quelque chose d'extérieur pour régler un problème intérieur. Il voulait que la sagesse rentre en lui. Alors nous qui avons Christ en nous, qui a été fait pour nous sagesse, justification, sanctification, rédemption, ben, nous voyons que nous avons reçu ce que ces personnes désiraient, recherchaient. Purifie-moi avec de l'hysope et je serai pur. Lave-moi, je serai plus blanc que la neige. Annonce-moi l'allégresse et la joie et les eaux que tu as brisées se réjouiront. Détourne ton regard de mes péchés, efface toutes mes iniquités. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Crée en moi un cœur pur. Encore cette notion de quelque chose qui allait se faire plus tard. Nous avons été recréés. Notre esprit a été recréé. D'accord ? Dieu ne nous a pas simplement améliorés, il nous a changés. Il a fait une recréation. Et déjà, David l'a prié, inspiré par le Saint-Esprit, crée en moi un cœur pur. Il avait réalisé la seule façon d'être pur, c'est d'enlever le vieux cœur et d'en mettre un autre à la place. C'est la seule façon. On ne pouvait pas, même en essayant de laver avec tout ce qu'il a dit, l'hysope et nettoyer, rien n'y fait. Il fallait une transplantation cardiaque dans l'esprit. Et donc, voilà comment se passe cette pureté. Cette pureté que nous devons entretenir. Dans la deuxième épître de Pierre, chapitre 1, verset 9, il dit que certaines choses spirituelles doivent être en nous. Les choses spirituelles, je n'ai pas le temps maintenant de m'étendre, c'est la foi, la vertu, la connaissance, la maîtrise de soi, la patience, la piété, l'amitié fraternelle, l'amour, toutes ces choses doivent être en nous, parce que celui en qui ces choses ne sont point est aveugle. Il ne voit pas de loin et il a mis en oubli quoi ? La purification de ses anciens péchés. C'est quelque chose que nous ne devons pas mettre en oubli. Nous remarquons que l'apôtre Paul, qui avait remporté une victoire dans sa vie et sur lui-même, il avait un passé de meurtrier. Mais pourtant, il a su vivre avec son passé. C'est-à-dire qu'il avait réglé le problème de son passé en passant par la nouvelle naissance, mais il était conscient de la purification de ses péchés. Il n'a pas dit ce Paul, là, non, c'est pas moi qui l'ai fait. Non, il savait que c'était lui, mais ça ne l'affligeait plus, parce qu'il savait ce que Christ avait fait pour lui. Mais ce qui nous dit qu'il était conscient de la purification de ses anciens péchés, c'est le regard qu'il avait sur lui-même. Il ne s'estimait pas, moi je suis le grand apôtre Paul. Mais au contraire, au fur et à mesure de son cheminement spirituel, il descendait toujours plus. Un moment il dit, je suis le moindre de tous les apôtres. Et un peu plus loin il dit, je suis le moindre de tous les saints. Ce n'est pas d'une auto-flagellation, se faire souffrir. C'est simplement une réalisation que je ne suis pas meilleur que les autres. Ce n'est pas à cause de ce que j'ai fait que je suis meilleur. Nous sommes tous pareils. Même quand il dit le moindre de tous les saints, eh bien, il avait cette conscience que ses anciens péchés étaient purifiés. Sinon, il n'aurait jamais pu accomplir l'œuvre qu'il a faite. S'il avait conscience du péché. Mais il n'avait pas, en fait, une conscience du péché. Il avait une conscience de la purification du péché. C'est bien mieux. Alléluia. Donc, ayons en nous cette conscience de la purification opérée par Jésus. Le sang de Jésus qui nous purifie. Hébreux 9, versets 13 et 14. Car si le sang des taureaux, des boucs, la cendre d'une vache répandue sur ceux qui sont souillés, sanctifie et procure la pureté de la chair, combien plus le sang de Christ, qui par l'Esprit éternel s'est offert lui-même sans tâche à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes afin que vous serviez le Dieu vivant. Alléluia. Voilà pour la pureté. Le sang de Christ qui par l'Esprit éternel s'est offert vous demande ce matin de vous offrir vous-même aussi pour servir, non pas d'après des œuvres mortes, des obligations, des religions, servir le Dieu vivant. Le Dieu vivant. Et quand nous avons donc ce pardon, que nous avons la pureté, qu'est-ce qui se passe maintenant? Eh bien, nous expérimentons la vraie paix de Dieu. Plus de tourments, plus opprimés, plus déprimés, plus tourmentés. Et le diable ne pourra pas non plus nous supprimer, parce que nous avons la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence, qui garde nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ. On va voir ça dans un instant dans Philippiens. Tout d'abord, voyons, on n'a pas besoin de le prendre, je vous dis simplement la référence, Romains 5, 1 nous dit... Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu. Nous annonçons la paix avec Dieu à tout homme. Dieu a réconcilié le monde avec lui-même. Avant, il y avait la guerre. Et Romains 5, d'ailleurs, dans le contexte, parle d'ennemis. Avant, nous étions les ennemis de Dieu. Il y avait une guerre ouverte. Deux camps. Et nous étions dans le mauvais camp. Ennemis de Dieu. Mais on a fait la paix. On a fait la paix, il n'y a plus de guerre. Nous sommes donc en paix avec Dieu. Et donc, les gens qui sont nés de nouveau, ils peuvent être en paix avec Dieu, ils peuvent aller au ciel et être déprimés toute leur vie, être tourmentés par des péchés et vivre selon la chair. Mais nous, ce n'est pas ce que nous désirons. Nous désirons jouir des bienfaits de la croix, à travers du pardon, de la pureté, et nous voulons expérimenter la paix de Dieu. C'est pour ça que Jésus a dit, dans Jean 14, 27, « Je vous laisse la paix », et puis il a rajouté, « Je vous donne ma paix ». Deux choses différentes. Je vous laisse la paix c'est bien, mais il a précisé de quelle nature elle est, et dit c'est ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne, je donne ma paix. C'est comme si je viens chez vous, j'apporte un cadeau, je vous le montre, puis je l'emmène de nouveau. Ça serait ridicule. Jésus a dit, voilà, je suis venu, je vous apporte la paix, parce que moi je suis le prince de la paix. Et je vous la laisse. Elle reste chez vous maintenant. Elle va demeurer chez vous. Je vous laisse la paix. Donc, vous n'avez pas seulement la paix avec Dieu, mais vous, Dieu veut vous donner la paix de Dieu, qui est bien mieux. Regardons encore un instant cette notion de la paix et de la guerre qu'il y avait. Éphésiens 2, 13. Maintenant, en Jésus-Christ, c'est-à-dire aujourd'hui, au moment de la foi, en ce moment que vous vivez, vous qui étiez jadis, autrefois, vous étiez éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. Car il est notre paix. Lui qui des deux n'en a fait qu'un. Il a renversé le mur de séparation. L'inimitié, ça veut dire une guerre permanente, une haine viscérale, on pourrait dire, ayant anéanti par sa chair la loi des ordonnances dans ses prescriptions. Il a voulu créer en lui-même... Alors, quand Dieu dit « il a voulu créer », ça veut dire qu'il faut être attentif. C'est ce qu'il veut faire. Son plan, c'était ça. Son plan, dès le début, c'était créer en lui-même, en lui, faire quoi ? Un seul homme nouveau en établissant la paix. Établissant la paix, il a dit « il y a maintenant un seul homme nouveau ». Un seul. Des fois, les gens sont tourmentés aussi, se posent des questions, mais où ça, comment savoir où est la vérité ? Avec toutes ces religions, toutes ces sectes, qui a raison, qui a tort, il y en a qui disent « Oh non, 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 c'est trop compliqué, je ne veux même pas chercher à comprendre, je reste ce que je suis, je m'accroche à mes traditions, à mes coutumes. » Mais pour Dieu, les choses sont simples. Il y a deux familles sur terre, celle de Dieu et celle du diable. Alors, il n'y a pas 36 religions pour Dieu. Dieu, l'un et l'autre, dans le contexte, c'est ceux qui viennent à Christ et qui sont d'origine hébraïque, et ceux qui viennent à Christ et qui sont, viennent des païens. Des deux, il n'en a fait qu'un. Hein? Je sais que des fois, on fait des différences, juifs, gentils, originaires de païens, originaires hébraïques. En Christ, il n'y a plus aucune différence. Il n'y en a qu'un seul. Un seul homme nouveau. Il a détruit par la croix l'inimitié. Il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin et la paix à ceux qui étaient près. On dit d'habitude que le peuple d'Israël était plus près de Dieu. Un homme est venu un jour vers Jésus, Jésus lui a dit « Tu n'es pas loin du royaume de Dieu. » Mais que je sois loin du royaume de Dieu ou tout près du royaume de Dieu, je n'en suis pas moins en dehors du royaume de Dieu. D'accord ? Donc ça ne me sert à rien. C'est peut-être mieux d'être prêt, mais il ne faut pas rester prêt, il faut aller dedans, sinon ça ne sert à rien. Je préfère être dedans que tout prêt. Et donc, qu'est-ce qu'il a fait ? Il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin et la paix à ceux qui étaient prêts, car par lui, les uns et les autres, nous avons accès auprès du Père dans un même esprit. Nous avons accès auprès du Père. La paix nous permet de venir auprès du Père. La paix de Dieu. Parce que ce n'est pas que Dieu nous rejette, mais si nous n'avons pas la paix en nous, nous n'aurons pas d'assurance non plus pour aller auprès de Dieu. Nous allons nous priver d'énormément de choses parce que notre conscience va nous accuser. C'est pour ça que nous devons faire toute cette démarche, recevoir le pardon, voir que nous sommes purifiés, que nous pouvons maintenant rentrer dans la présence de Dieu et expérimenter sa paix. Sa paix, nous pourrons l'expérimenter d'une façon très pratique. Philippiens 4, beaucoup le connaissent, il vous suffit encore de le pratiquer. Ne vous inquiétez de rien. Et il n'est pas dit ne vous inquiétez pas de la plupart des choses, ou ne vous inquiétez pas des grandes choses, je m'en occupe, mais vous, vous occupez des petites choses. Et dit ne vous inquiétez de rien. Et il a dit mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. C'est radical, hein? C'est rien et tout. Et la paix. Et, conjonction de coordination, ça veut dire qu'il y a quelque chose avant qui est important pour nous à relever. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Nous avons besoin donc de comprendre que nous voulons la paix de Dieu. Alors, il faut aussi faire la première partie. Ne vous inquiétez de rien, ça veut dire que je décide une fois pour toutes, j'appartiens à Dieu, il s'occupe des choses qui me concernent. Et que l'inquiétude ne va pas rajouter quoi que ce soit à ma vie, je ne pourrai pas rallonger d'une coudée, dit Jésus, ma vie par l'inquiétude. Ça ne m'aidera pas. Verset 8, encore des choses pratiques à mettre en exercice. Au reste, frère, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, voyez, pur à nouveau, tout ce qui est juste, non, tout ce qui est juste, j'ai déjà dit, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. C'est à ça que vous devez penser. Ce que vous avez appris, reçu, entendu de moi, et ce que vous avez vu en moi, pratiquez-le. Et le Dieu de paix sera avec vous. Vous savez qu'on en a déjà parlé, c'est important, la révélation du nom de Dieu. Qui est Dieu ? Il se révèle, Jéhovah Shalom, par exemple, hein, ou Jireh, ou d'autres choses. Eh bien, ici, le nom de Dieu est le Dieu de paix. Il se révèle comme étant le Dieu de la paix. C'est un de ses attributs qui nous parle beaucoup de la nature de Dieu. La paix est une des bénédictions de la croix. Et maintenant, une bénédiction de la croix, c'est les promesses. Nous avons des promesses. La Bible est remplie de promesses, des milliers de promesses, où Dieu s'engage. Les promesses. Quelle est la condition aux promesses de Dieu ? La condition aux promesses de Dieu, eh bien, on la trouve dans la deuxième épître de Paul aux Corinthiens, chapitre 1 et verset 20. Car pour tout, pour ce qui concerne toutes les promesses de Dieu, c'est en lui qu'est le oui. Si vous voulez avoir un oui de la part de Dieu à une promesse, comment allez-vous faire? Vous l'avez la trouver en Jésus. Pas autrement. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Je crois que nous avons besoin de nous encourager à croire aux promesses de Dieu. Des fois dans notre vie chrétienne, on a eu un moment, on s'est emparé d'une promesse, une parole reçue. On était enthousiaste. On l'a déclaré, on l'a cru, on l'a prié, on l'a attendu. Mais quand ça ne vient pas, au bout d'un moment, elle faiblit un petit peu la promesse. Et au bout d'un moment, elle s'éteint et on se demande, mais est-ce qu'elle va jamais un jour se réaliser? Alors nous sommes réunis entre frères et sœurs justement pour nous encourager de nouveau aux promesses de Dieu. Si vous demeurez, ça veut dire si vous faites ce choix d'une façon permanente, demeurez en lui. Si nous habitons juste par intermittence, de temps en temps on est avec Jésus, de temps en temps on est avec le monde, on comprend que cette promesse de demeurer n'est plus valable. Si mes paroles demeurent en vous, c'est cité de Jean 15, 7, mes paroles, ça ne veut pas dire de temps en temps je lis d'une façon distraite un verset de la Bible et j'essaie de le proclamer deux fois pour voir si ça va produire du résultat. On a besoin de caricaturer un petit peu pour qu'on réalise que c'est du sérieux. C'est-à-dire être rempli de cette parole pour que de l'abondance du cœur la bouche parle, que nos prières soient remplies de la parole de Dieu, que notre conversation soit pleine de la parole de Dieu. Pas juste à l'église, mais partout, surtout dans notre maison. Qui veut la réalisation des promesses et des prières? Chacun d'entre nous. Et la Bible nous dit deux choses. Elle nous dit premièrement en Nombre 23 que Dieu n'est pas un homme pour mentir. Alors ça nous fait peut-être pas tellement plaisir. Nombre 23, 19. Dieu n'est point un homme pour mentir. Et place Dieu comme étant la vérité et tous les hommes sont des menteurs. Alors là, on prend une claque. Mais nous avons besoin d'être humiliés de dire que notre nature humaine n'est pas une nature qui est habituée à la vérité. Nous avons besoin de l'apprendre, la vérité. Elle ne vient pas spontanément. Parce que, Jésus le disait dans Jean 8, que nous étions enfants du diable et que le diable était le père du mensonge et qu'en lui, il n'y a pas de vérité. Quand il parle de son propre fond. Il est le père du mensonge. Mais Jésus est venu, il a dit, je suis la vérité. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'un homme pour se repentir. Ce qui veut dire que Dieu ne change pas d'avis constamment. On peut se confier en lui. On sait où on en est avec lui. Et donc, nous avons besoin de nous rappeler ça. La promesse de Dieu ne change pas. La parole de Dieu est la même. Et nous, en nous, dans notre cœur, elle baisse un peu des fois. C'est pour ça que nous sommes ensemble, pour nous encourager à dire, crois aux promesses de Dieu. Et alors, quand des fois, nous voulons croire à une promesse de Dieu, eh bien, on nous raconte des histoires de telle personne ou telle personne pour qui ça n'a pas marché, pourtant t'es une bonne chrétienne, elle a prié tant d'années, elle a fait tellement de choses, et quand même ça n'a pas marché. Eh bien, c'est peut-être une parole dure pour certains, mais c'est la parole de Dieu là encore. Romains 3, au verset 3, il nous est dit, « Eh quoi ? Si quelques-uns n'ont pas cru, leur incrédulité annulera-t-elle la fidélité de Dieu ? Loin de là, que Dieu, au contraire, soit reconnu pour vrai, et tout homme pour menteur, selon qu'il est écrit, afin que tu sois trouvé juste dans tes paroles et que tu triomphes lorsqu'on te juge. » Il y a des gens, ils ont souffert, ils n'ont pas obtenu les promesses de Dieu. Il y a peut-être des choses qu'ils ne savaient pas, mais il y a une chose que nous ne pouvons pas accepter, c'est quand ils s'attaquent à la parole de Dieu. Parce que si nous nous attaquons à la parole de Dieu, nous nous rangeons du côté du diable qui a dit, « Dieu a-t-il réellement dit ?» On sème le doute, le trouble, et ça nous ne pouvons pas l'accepter. Nous pouvons avoir de la compassion pour eux, parce qu'ils souffrent, et ils s'en sortent pas, et ils voient pas des choses se réaliser, et nous pouvons vouloir les aider, mais nous, en aucun cas, nous n'accepterons que rentrent dans nos oreilles, dans notre cœur, ces paroles subtiles de doute où on veut semer, en disant « Non, Dieu ne fait pas ça. Non, Dieu ne va pas accomplir cette promesse. » Mais au contraire, de rester ferme. Ça ne veut pas dire les attaquer, les agresser, hein, leur donner des coups de massue avec des versets bibliques, Des fois, c'est vrai, nous avons besoin de nous défendre avec la parole de Dieu en disant « il est écrit ». Mais nous faisons un peu comme Jésus. Il disait « arrière de moi Satan ». En fait, il ne parlait pas réellement à ses disciples. Il voyait simplement le tentateur vouloir s'emparer de l'un de ceux qui étaient proches pour souffler en lui des paroles qui ne venaient pas de Dieu. Et donc, si quelques-uns n'ont pas cru, ça ne veut pas dire que nous jetons un blâme sur eux. C'est simplement, peut-être ils n'ont pas été enseignés. Ils n'ont pas su comment s'emparer des promesses de Dieu. Ils n'ont pas cru, ils n'ont pas reçu, mais ce n'est pas à cause de leur incrédulité que la parole de Dieu est changée. Elle ne change pas. Elle ne change pas. Cinquième bénédiction de la parole, de la bénédiction de la croix, c'est la puissance. Vous connaissez tous Actes 1:8, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins. Et vous savez que vous avez beau chercher la puissance de Dieu, beaucoup de gens veulent de la puissance, ils veulent dominer les autres, ils veulent contrôler, ils veulent avoir de l'importance. Mais nous ne parlons pas de ce genre de puissance, nous parlons de la puissance de Dieu qui s'obtient d'une seule façon dans Acte 15, au verset 8. Il nous est dit, Dieu qui connaît les cœurs leur a rendu témoignage en leur donnant le Saint-Esprit comme à nous. Le Saint-Esprit, c'est-à-dire la puissance de Dieu. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit. Ce n'est pas que le Saint-Esprit soit une chose, c'est une personne, mais c'est la puissance de Dieu. En leur donnant le Saint-Esprit comme à nous, il n'a fait aucune différence entre nous et eux. Encore une fois, il n'y a pas deux groupes, il n'y a qu'un seul. Ayant purifié leur cœur par la foi. Il y a la purification du cœur par la foi, c'est la conséquence de la croix, pardon, pureté, purification, qui nous rend maintenant capables d'accueillir la puissance de Dieu, le Saint-Esprit. Parce que Dieu connaît les cœurs. Dieu n'est pas obligé de donner son Saint-Esprit à quelqu'un qui n'est pas prêt. Et donc, il peut y avoir des gens qui vont s'ouvrir à des autres influences. Et rappelez-vous que la puissance va se manifester dans la mesure où Dieu va confirmer sa parole. S'il n'y a pas de parole de Dieu, il n'y a pas non plus de puissance. Parce que la puissance du Saint-Esprit est là pour confirmer ce que la parole déclare. Et vous recevrez le Saint-Esprit, vous recevrez une puissance du Saint-Esprit, vous serez mes témoins. On reçoit la puissance en vue de quelque chose. On est témoin, la puissance du Saint-Esprit vient. Si je suis témoin de moi-même, écoutez, maintenant je vais vous raconter mon histoire, combien je suis merveilleux et toutes les grandes choses que j'ai accomplies. Dieu n'a pas besoin maintenant de me donner le Saint-Esprit pour confirmer ce témoignage. Puisque ce n'est pas un témoignage qui rend gloire à Dieu. Je ne parle à la rigueur même pas de Jésus. Et donc il n'y a pas de puissance là-dedans. C'est des mots humains. Mais si je parle des grandes choses que Dieu a fait et que je lui rends gloire, alors il y a une puissance. Il y a une puissance, par exemple, toute simple dans le fait d'annoncer l'Évangile. Annoncer la bonne nouvelle est une puissance. Romains nous dit cela dans Romains 1, 16. Je n'ai point honte de l'Évangile. C'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Du juif premièrement, puis du grec. Parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Les gens du monde n'ont pas honte de pécher. De moins en moins, on montre ouvertement des choses qu'on aurait eu honte même d'avouer il y a quelques années, mais maintenant ça fait partie du paysage audiovisuel et paysage tout court. Tout le monde s'étale et il nous est dit que dans l'épître de Pierre qu'il y avait déjà à l'époque des hommes tarés, hein, tarés. Donc, en général, quand on dit taré, c'est une insulte. Si on dit à quelqu'un c'est un taré, mais Pierre disait dans son épître, il y a des hommes tarés qui se livrent au plaisir en plein jour. Donc, ils étalent publiquement des choses qui ne devraient même pas se faire. Mais puisque des gens n'ont pas honte de leur péché, pourquoi les chrétiens auraient-ils honte de l'Évangile? Ils ont besoin de nous encourager en relisant Romains 1, 16. Nous n'avons pas honte de l'Évangile. Et nous sommes encouragés parce que ce n'est pas un petit Évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. C'est la puissance de Dieu. Ah, tu crois en Jésus? Soyons prêts à contre-attaquer, à dire, et toi, tu n'y crois pas? C'est la puissance de Dieu qui peut te sauver. Sixième, le pouvoir. La croix nous donne le pouvoir. Alors là encore, mal compris. Quand les gens recherchent le pouvoir, c'est quoi? Un homme politique qui veut être une position élevée pour influencer les autres. Mais le pouvoir, qu'est-ce que c'est? Un terme juridique aussi. On peut écrire bon pour pouvoir, des choses comme ça. Vous avez peut-être déjà signé des contrats. Le pouvoir, c'est que vous avez reçu l'autorisation d'utiliser le nom de Jésus. Vous avez la procuration. Le pouvoir, en réalité, c'est l'autorité. Quand Jésus dit dans Luc 10, tout pouvoir, non, c'est pas celui-là. Dans Luc 10, c'est au verset 19, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Alors quand il est dit, voici, je vous ai donné le pouvoir, en réalité, ça ne parle pas de force physique. Le chrétien n'est pas là en train de faire une espèce de bras de fer avec un esprit démoniaque et finalement arrive à le terrasser. Ce n'est pas ça. Le pouvoir, ça veut dire j'ai reçu l'autorité. Que si je lui parle et que je lui dis qu'il doit se taire, il doit se taire. S'il doit partir, il doit partir. S'il doit sortir, il doit sortir. Qu'est-ce qui fera la différence? Uniquement si nous y croyons. Parce qu'il ne va pas lâcher tout de suite, il va essayer de voir, est-ce que vraiment je suis obligé? Et des fois, ils veulent rester là où ils sont, mais nous avons le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi. Rien ne pourra vous nuire. Il est dit, cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. Ça veut dire que nous avons aussi le pouvoir, l'autorité pour accéder auprès de Dieu. Et il dit, ça c'est encore beaucoup plus. De pouvoir se présenter devant Dieu, c'est encore beaucoup plus que d'avoir autorité sur un mauvais esprit. Le pouvoir, c'est aussi Marc 16, toute la liste qu'on sait. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui ont cru. En mon nom, voici les choses qu'ils feront. Ils chasseront les démons. Ce n'est pas que nous devions nous faire des efforts pour faire que ce démon sorte enfin. Non, c'est que nous devons exercer l'autorité. L'autorité s'exerce comment? Avant tout par la parole. C'est que le policier, il a aussi des signes, hein, quand il lève sa main, les voitures doivent stopper. Et c'est une bonne illustration. Parce qu'il n'aurait pas la force physique de se mettre devant un camion pour le stopper s'il veut avancer. Mais il a l'autorité de lui dire stop et il doit s'arrêter. Et s'il ne le fait pas, il y a des conséquences. Parce que derrière cette personne d'autorité, eh bien, il y a la législation, la justice du pays et tout le reste qui vont poursuivre le contrevenant. Eh bien, de la même façon, si un démon voulait ne pas obéir, ça veut dire qu'il s'oppose littéralement à la puissance de Dieu. Et là, il ne fait pas le poids. Parce que quand l'ennemi viendrait comme un fleuve, eh bien l'Esprit de l'Éternel le mettrait en fuite. Jésus avait dit, si c'est par le doigt de Dieu que je chasse les démons. J'aime bien cette... Même le doigt de Dieu suffit. Il y a de la puissance en Dieu et le pouvoir nous est donné. Pouvoir, aussi un pouvoir qui nous est donné, c'est que nous avons la capacité de prospérer. Deutéronome 8, 18 nous dit que nous sommes appelés à établir l'alliance de Dieu sur la terre. Souviens-toi de l'Éternel ton Dieu, c'est lui qui te donnera de la force pour acquérir des richesses afin de confirmer, comme il le fait aujourd'hui, son alliance qu'il a jurée à tes pères. C'est la même chose. Des fois, est-ce que vous avez bien compris quand on chante des fois ce petit cœur basé sur l'Écriture qui dit « ni par puissance, ni par force, mais par l'Esprit du Seigneur ». Ni par puissance, ça veut dire pas en notre propre force. Pas d'une force qui serait d'une origine charnelle, une capacité humaine, mais par la force qui vient de Dieu. Et bien de la même façon, ce n'est pas par nos aptitudes avant tout, mais c'est avant tout par la capacité qui nous est conférée par Dieu. Et il nous a donné l'autorité de ne plus être sous cette malédiction. J'ai dit que nous n'adorons pas la croix en tant qu'objet de malédiction. Nous adorons Jésus et nous avons du respect pour l'œuvre qui a été faite à la croix. Mais Galates 3 nous dit clairement, quiconque est pendu au bois est maudit. La malédiction était venue sur Jésus à cause de nous, afin que la bénédiction d'Abraham puisse venir sur nous. Bénédiction d'Abraham qui est multiple, et puis cela est possible parce qu'il y a eu ce transfert. Malédiction, bénédiction. Nous étions maudits, la bénédiction était auprès de Dieu, notre malédiction a été mise sur Jésus pour que la bénédiction de Dieu vienne sur nous. 2 Corinthiens 5, 21 nous dit aussi, je crois que c'est celui-là, qu'il a été fait pour nous péché afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Tellement important de toujours comprendre cette alternance. Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Eh bien, quand je dis nous avons aussi l'autorité et le pouvoir de prospérer, c'est que dès le début, quand Adam avait péché, Dieu lui a dit maintenant tu es maudit. La terre est maudite. Et tu vas devenir travailler à la sueur de ton front pour essayer d'en sortir quelque chose qui va te permettre de survivre. Voilà la malédiction. Et maintenant que la malédiction est sur Jésus, eh bien la bénédiction vient sur nous. Et Jésus l'a exprimé, plutôt au travers des lignes inspirées du Saint-Esprit, l'apôtre Paul a écrit, eh bien dans 2 Corinthiens 8, 9, vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ qui, pour vous, s'est fait pauvre de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté, vous soyez enrichis. Donc nous avons aussi reçu ce pouvoir, cette autorité de sortir de la malédiction et de vivre dans la bénédiction de Dieu. De sortir de la pauvreté, de la misère et de vivre dans l'abondance de Dieu. Et le septième, et le dernier, on va voir ensemble maintenant, la bénédiction de la croix, c'est le parfum. Qu'est-ce que c'est ça le parfum? Eh bien le parfum, c'est ce que nous devons apporter avec nous. Quand nous nous réunissons, nous devons toujours avoir du parfum sur nous. Et ce parfum est décrit dans 2 Corinthiens 2, au verset 14. « Grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher en Christ et qui répand par nous en tout lieu l'odeur de sa connaissance. » Déjà, un parfum de victoire, ça c'est un bon parfum, pas le parfum de défaite. « Nous sommes en effet pour Dieu le parfum de Christ, parmi ceux qui sont sauvés et parmi ceux qui périssent. Aux uns, une odeur de mort donnant la mort, aux autres, une odeur de vie donnant la vie. Et qui est suffisant pour ces choses? Car nous ne falsifions point la parole de Dieu comme font plusieurs. Mais c'est avec sincérité, c'est de la part de Dieu que nous en parlons en Christ devant Dieu. » Alors, souvent on a essayé de voir, mais pour lesquels on est une odeur de mort et pour lesquels on est une odeur de vie? Eh bien, c'est tout simple. C'est quand quelqu'un a besoin de la vie de Dieu, on la lui communique. Et si quelque chose a besoin de mourir dans votre vie, la parole de Dieu que nous ne falsifions pas, eh bien, elle dit, ce que tu fais n'est pas juste. C'est-à-dire, on apporte la mort. On apporte la mort, par exemple, d'une idée, d'un projet, d'une habitude, d'un comportement. On communique la mort, pas dans le sens de tuer la personne, mais de dire, si tu continues dans cette voie, ça va t'amener à la mort. Donc, a priori, ça ne semble pas être encourageant. On a l'impression que c'est un message de mort. Mais pour le péché, il n'y a pas d'autre issue. Le salaire du péché, c'est la mort. Vous voyez, si je commençais à changer le message, je dirais, tu sais, ce que tu fais n'est pas grave. Ça n'a pas de conséquences dans ta vie. Tu aimes Jésus et puis c'est l'essentiel. Non, ça ne va pas comme ça. On est obligé, et l'apôtre Pierre le disait aussi dans ses épîtres, il disait, je dois sans cesse vous tenir en éveil par des avertissements. Donc il y a la prédication de la croix qui de temps en temps est un message qui élève, un message qui réjouit, un message qui enthousiasme, et puis de temps en temps c'est un message qui produit une tristesse, qui produit un abattement. Quelqu'un qui fait des progrès avec Dieu, au bout d'un moment il peut aussi s'enorgueillir, puis il trouve qu'il est formidable, on dit, tu es en train de partir dans la mauvaise direction. Alors dans un premier temps ça décourage peut-être, mais il est dit aussi dans Corinthiens qu'il y a une tristesse selon Dieu qui produit une repentance et après elle produit une joie dont on ne se repent pas. Apocalypse nous parle aussi des parfums. Apocalypse, il nous est dit, qu'est-ce que c'est les parfums? C'est les prières des saints. Dans Apocalypse 5, voilà ce qui se passe dans la présence de Dieu. Il y avait là devant l'agneau, il se prosternait, au verset 8. Il y avait qui tenait une harpe, il y avait des coupes d'or remplies de parfums, qui sont les prières des saints. Les prières des saints. Voilà aussi un résultat de la croix. C'est que nos prières, elles dépassent le plafond. Hein, comme certains disent, j'en ai déjà parlé de ça, on n'a pas besoin de nous soucier jusqu'où vont les prières, si elles dépassent le plafond ou pas. Dieu, il est là, tout près de nous. Eh bien, il y a des prières des saints qui sont agréables à Dieu. C'est un parfum qui lui est agréable. Il aime entendre notre voix. Il aime surtout parce que nous venons à lui dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Et il y a, à cause de ses prières, lesquelles sont agréables à Dieu. Vous savez comment on fait pour être agréable à Dieu? Hébreux 11, verset 6. Il faut que ceux qui s'approchent de Dieu croient que Dieu existe. Ça veut dire, je ne fais pas une prière du bout des lèvres et je pense déjà à autre chose. Je pense à Dieu. Je lui parle, il est réel. Là, en ce moment même, pendant que je vous parle, je sais que Dieu est là, qu'il entend chaque parole, qu'il voit chacun de nos cœurs. Et donc, je crois qu'il existe et je crois qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Qu'il y a une rémunération, il y a une récompense, il y a un bénéfice. Bénéfice, les gens dans le monde comprennent ce que c'est. Une entreprise qui a du bénéfice, c'est une entreprise qui gagne des sous. Mais ça vient du mot « béné » qui veut dire « bien ». Il y a des bienfaits qui résultent de notre œuvre, de notre action. Dieu ne nous demande pas d'être plus spirituel que nous, que lui. Il sait que notre être humain que nous sommes désire aussi voir des résultats, voir des bienfaits dans notre vie. Et lui aussi désire le faire. Alors, en un petit résumé, nous le trouvons encore dans 1 Pierre 1. Pour conclure cette ensemble de choses que nous avons vues, des bénédictions de la croix, je vous rappelle rapidement, donc nous avons vu le pardon, la pureté, la paix, les promesses de Dieu, la puissance, le pouvoir et le parfum. 1 Pierre 1, voilà, il s'adresse à ceux qui sont élus, selon la préscience de Dieu le Père, par la sanctification de l'Esprit, afin qu'ils deviennent obéissants et qu'ils participent à l'aspersion du sang de Jésus-Christ. Que la grâce et la paix vous soient multipliées. Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage qui ne peut ni se corrompre, ni se souiller, ni se flétrir. Il vous est réservé dans les cieux. Il y a quelque chose qui vous attend au ciel. À vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi pour le salut, prêt à être révélé dans les derniers temps. Le salut était, comme je l'ai dit, c'était caché. Il y avait des choses qui étaient dans les ténèbres. Mais maintenant, les yeux s'ouvrent. De plus en plus de choses sont dévoilées. Parce que nous sommes dans les derniers temps. Ce salut est révélé. Et alors, qu'est-ce qui se passe quand il est révélé? Eh bien, on est joyeux. Parce qu'on participe. C'est là ce qui fait votre joie. Quoique maintenant, ça veut dire, ça, c'est pas toujours évident, comme on dit. Quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves. Des fois, on est éprouvé, ça arrive. Afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvé par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Même dans l'épreuve de notre foi, ce n'est pas quelque chose qui va nous détruire, nous abattre, mais c'est encore là quelque chose qui va donner louange, gloire et honneur à Jésus-Christ. Vous l'aimez sans l'avoir vu. Nous l'aimons et nous ne l'avons pas vu. Je n'ai pas eu de vision céleste, je n'ai pas vu Jésus-Christ face à face, mais je crois en lui. Vous croyez en lui sans le voir encore, et vous réjouissant d'une joie merveilleuse et glorieuse. Parce que, pourquoi est-ce qu'on se réjouit? Parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour prix de votre foi. Parce qu'il y a une récompense, le salut de nos âmes. Notre âme est sauvée quand on est quoi? Conscient du pardon, purifié, quand on a la paix de Dieu, on jouit des promesses de Dieu, la puissance, on exerce l'autorité, nos prières sont écoutées par Dieu, alors notre âme est sauvée. Les prophètes qui ont prophétisé toucheront la grâce qui vous était réservée.